Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir Noémie Fachan, plus connue sous son avatar d'illustratrice féministe Maëdusa et autrice de la BD Maternité, Miracle et Malédiction, portrait pour questionner les injonctions à la parentalité, publiée aux éditions Hattie. Dans son livre, Noémie part de ses propres interrogations sur le désir d'enfant pour aller questionner les injonctions liées à la parentalité dans toutes les sphères parentales. Mais ça veut dire quoi exactement, le désir d'enfant? Est-ce un désir profond ou une envie conditionnée par notre société? Et puis, pourquoi l'âge avançant, on se sent presque prisonnière de ces questions? Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne concernant les injonctions liées à la parentalité? Ça, ce sont les questions auxquelles Noémie tente de répondre dans son livre. Mais dans cet épisode, nous revenons sur les raisons qui ont poussé Noémie à se poser ces questions, sur son parcours de vie de femme et aussi de militante féministe. On parle de sujets si passionnants que tu ne verras pas leur passer. En tout cas, perso, j'aurais pu papoter de nombreuses heures encore. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Noémie.
Bonjour Élise.
Bienvenue sur Prenons un café. Je suis
Merci de
contente
m'avoir invitée.
De te voir ce matin, c'est trop cool. Avant de commencer, une petite présentation traditionnelle pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Noémie, mais j'ai un alias qui est Maëdusa sur Instagram. Vous m'avez peut-être croisée. Je fais de la bande dessinée féministe, engagée, que je veux la plus inclusive possible. Et mon héroïne est donc coiffée de serpents. C'est une gorgone, inspirée de la méduse mythologique. Et en fait, dans mon univers, les gorgones et les gorgons, ce sont toutes les personnes sexisées, c'est-à-dire toutes les personnes qui subissent le sexisme. Voilà, et puis Maëdusa vient d'entrer en librairie. Je viens de publier un premier livre qui s'appelle Maternité, Miracle et Malédiction. Je crois que c'est celui-là qui t'intéresse en particulier. Et puis il y en a un autre qui arrive juste derrière, L'œil de la gorgone. Justement, c'est des relectures de figures mythologiques dans un regard féministe.
Trop bien. En vrai, les deux m'intéressent. Mais c'est vrai qu'on va particulièrement aborder le sujet du premier aujourd'hui. En effet, tu as sorti un livre, récemment, en août, je crois.
Exactement.
Autour des injonctions à la maternité. C'est un sujet, tu sais, sur Prenons un café qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, mais dans la vie aussi, hein, pas que sur Prenons un café d'ailleurs. Du coup, ça va m'amener à te poser la question traditionnelle de Prenons un café, question que tu te poses d'ailleurs au début du livre, donc c'est assez intéressant. Est-ce que tu désires être mère?
Eh bien, je suis navrée de ne pas pouvoir faire une réponse concise et impactante, de te dire oui, de te dire non. Je fais partie des nombreuses personnes qui sont pétries de contradictions par rapport à la projection dans une parentalité. Donc, une partie de moi, oui, y aspire. Et justement, c'est une partie un peu compliquée finalement, parce que faire la part des choses entre mon désir d'authentique d'enfant et la projection dans la parentalité qui m'a été un peu imposée, ce qu'on appelle la fameuse injonction à la maternité, depuis que je suis toute petite, comme beaucoup de petites filles, pour moi c'est pas super simple en fait de démêler ça. Je fais partie des personnes pour qui c'est pas simple de démêler ça. Et puis de l'autre côté, j'ai énormément d'appréhension par rapport au futur, par rapport à plein de choses. Donc en fait, je navigue entre ce « j'aimerais bien » et en même temps « je suis pas certaine ». Et voilà, j'en ai même fait un livre, dis donc.
Bah oui, mais oui, c'est ça qui est assez intéressant, c'est ce que je disais dans ton livre. Enfin, tu commences vraiment par ça, c'est ce personnage qui va justement... Alors j'ai plus les mots en tête parce que c'est pas le mot gynécologue.
C'est... Oui, c'est la gorgonologue.
La gorgonologue. C'est la gorgonologue justement pour poser plein de questions. Et s'ensuit tous ces portraits finalement de parents et futurs parents et personnes qui ne veulent même aussi pas d'enfants. Donc, tu vas questionner vraiment tout ce rapport à la parentalité. Est-ce que ce livre est le reflet d'un cheminement personnel?
Ah oui, complètement. Ce livre, c'est même en partie ma thérapie. J'ai 38 ans actuellement et mon année des 35 ans a été très, très dure à vivre parce que je me suis vraiment retrouvée prise en étau dans ces injonctions à la parentalité. Alors, je reviens quelques années en arrière. Il y avait tout un contexte. C'est souvent le contexte hein, qui nous prend un peu à la gorge. C'est vrai que 35 ans, c'est un âge un peu symbolique. C'est vraiment le milieu de la trentaine. C'est souvent les étapes comme ça, les 35, les 40 et tout, ça nous secoue un peu parce qu'il y a toute, il y a vraiment toute une symbolique derrière, alors que finalement, il n'y a pas une grande différence entre 34 et 36 ans, mais bon, on s'en fait un
tu
peu.
Tu me rassures parce que c'est vers 35.
On s'en fait souvent tout un plat, en fait, des milestones comme ça, des âges symboliques. Et puis, moi, ma mère m'a eu à 35 ans.
Ah.
Et j'ai, voilà, il y a quand même un héritage de ce côté-là. Et j'ai toujours entendu que c'était quand même un peu tard pour une femme de sa génération. Ma mère, elle est née en 50 quand même, donc voilà. Et toutes mes tantes, donc les sœurs de ma mère plus jeunes que ma mère, ont toutes eu des enfants avant ma mère. Donc ma mère, c'était un petit peu la dernière à s'y mettre, alors même qu'elle était la plus âgée de la fratrie. Et en fait, bah moi, je pense que j'ai beaucoup porté ça avec moi. Je me suis dit, 35 ans, je n'ai toujours pas d'enfant, alors que ma mère, elle m'a eu à 35 ans, alors que c'est déjà tard, oulala, le temps presse. Et puis, eh ben, je me suis retrouvée dans une situation pas enviable, enfin, selon la société, bien entendu, c'est-à-dire que j'étais célibataire, que j'allais un peu de déconvenue amoureuse en déconvenue amoureuse, j'étais en train de me dire... C'est pas simple cette histoire quand même, ni de trouver un partenaire amoureux et encore moins de trouver un partenaire amoureux avec lequel je pourrais me projeter dans une parentalité. C'était assez compliqué. Et puis la parentalité solo, ça me semblait insurmontable à cette époque-là parce que j'avais un emploi qui était très chronophage avec des horaires qui changeaient toutes les semaines il fallait être extrêmement disponible pour ce boulot-là et qui n'était pas très bien payé en plus de ça, donc vraiment avoir un enfant seul, ça me semblait insurmontable. Encore une fois, c'était une perception. Il y a plein de gens qui font des enfants dans des conditions bien plus précaires que la situation dans laquelle j'étais, mais enfin, donc finalement voilà. Voilà, je me suis retrouvée dans un état de stress, ça va un peu en mode panique, quoi. Finalement, est-ce que je vais passer à côté de ça? Est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas avoir été maman si ça ne m'arrive pas? Enfin bref, pour la première fois, j'ai été vraiment confrontée au fait que peut-être ça n'allait pas m'arriver. Alors que avant ça, je me disais, je vais finir évidemment par trouver chaussures à mon pied, je vais m'installer avec l'homme qu'il faut, je vais être parente dans les conditions que j'ai toujours imaginées. Et là, je me suis dit... ou pas. Et ça m'a fait très peur. Donc, j'ai amorcé un long travail qui est passé par la thérapie. J'ai été suivie pendant plusieurs mois par une coach vraiment super, très à l'écoute, qui m'a fait faire tout un tas d'exercices, si tu veux, on en reparlera, pour relativiser, en fait, vraiment ce qui était en train de m'arriver ou de pas m'arriver. Et puis, les choses ont fait que c'était, tu sais... 2020-2021, les confinements, bon moi je travaille dans le tourisme, donc j'ai fait partie des gens qui ont perdu leur emploi, n'avaient pas vraiment la perspective de retrouver le CDD derrière, enfin c'était un peu compliqué, et donc je me suis mis à dessiner, j'ai lancé Maedusa dont on parlait tout à l'heure, et donc ma vie a changé professionnellement, et j'ai eu cette occasion-là en or, les éditions Attier qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, nous on a une collection qui s'appelle Parentalité, on voudrait travailler avec toi parce qu'on adore Maedusa, on adore sa parole féministe, etc. Et on a cette idée de parler des injonctions à la maternité. Est-ce que ça te parle? Je vais, eh ben, vous tombez super bien. Donc voilà, finalement, ce livre, c'est vraiment le résultat d'un long cheminement personnel. Et aujourd'hui, en parler, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la thérapie, si tu veux.
Ouais, non, mais carrément. Mais je trouve ça intéressant parce que j'ai pas l'impression, alors tu me dis si je me trompe, peut-être que j'ai raté des postes, mais sur Maedusa, tu parles peu finalement de parentalité.
Ouais, c'est vrai, j'en parle pas beaucoup, bah, tout simplement parce que déjà moi je suis pas maman, donc c'est vrai que il y a d'autres personnes qui ont des enfants et qui en parlent extrêmement bien et j'adore lire ce qu'elles font et je les relais, etc. Et puis c'est vrai que sinon je vais plutôt m'intéresser qu'est-ce qui se passe dans le couple hétéro par exemple, donc la symétrie par rapport à la charge domestique, etc. Donc ça touche à la parentalité de plein fouet même, mais c'est vrai que je vais rarement en parler, sinon pour justement revenir sur ce moment de grand stress et de grande crainte, de grande terreur par rapport à la pression que je me mettais par rapport à ça, et ça parle à beaucoup de monde, ouais, ça je sais.
Carrément. Et puis la parentalité, tu vois, tout à l'heure tu parlais de féminisme, mais la parentalité est un gros gros point de départ sur les inégalités entre les femmes et les hommes aussi. Donc c'est un point de, enfin, je pense que, et je pense, j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui sont concernées par ce sujet, que beaucoup de combats féministes, en tout cas, que le féminisme arrive aussi parfois par la maternité, parce qu'on se rend compte en fait justement de ce que ça veut dire l'inégalité entre les femmes et les hommes, puisque ben c'est dans le foyer que ça commence en fait, à l'arrivée des enfants, puis professionnellement, puis après c'est la dégringolade, c'est assez assez terrifiant. Est-ce que toi tu as ces questions féministes là en tête quand tu questionnes ta parent, ta possible parentalité?
Oui, oui, bien sûr, absolument. déjà, de toute façon, depuis que je fais ma Elusa, je suis constamment en train d'interroger le monde de manière générale à travers la grille du féminisme, à travers la grille des inégalités de genre. Donc, de toute façon, toute projection, ça va être passé à cette moulinette-là, si tu veux. Et oui, oui, bien sûr que j'y ai réfléchi, parce que c'est très lié à la question, justement, tu le disais, du travail, du couple, comment on fonctionne. C'est intéressant ce que tu dis, parce que oui, moi, ce dont j'ai vraiment l'impression en écoutant les gorgones autour de moi qui sont parents, c'est que la parentalité, et particulièrement la maternité, donc, ça va vraiment être, il n'y a pas que celle-là dans la vie, mais un des moments, enfin, une des dimensions de la vie dans lesquelles vont être exacerbées tous les types de discrimination. Donc évidemment, en premier lieu, quand on est une femme hétérosexuelle, cette inégalité de genre par rapport eh bien, au conjoint, au temps du conjoint, à la carrière du conjoint, à la façon dont le conjoint, lui, est considéré en tant que parent dans la société, et ça met vraiment en valeur le fait que ça, enfin, voilà, qu'il y a une différence, que la parentalité est différenciée entre un père, une mère dans cette société. Mais finalement, les autres discriminations, c'est un peu le cas aussi, c'est-à-dire que les discriminations liées au handicap vont être exacerbées, les discriminations liées à la grossophobie, au poids vont être exacerbées, le racisme va être exacerbé. En fait, c'est vraiment cette dimension de la vie dans laquelle tout va prendre une dimension, enfin tout va prendre une taille, une pression supplémentaire. Donc oui, bien sûr, je me pose beaucoup de questions aussi par rapport à ça, c'est-à-dire, c'est vrai que l'avantage, c'est que si un jour je deviens parent, ce qui est sûr, c'est que j'y vais avec peu d'illusions.
C'est justement toutes ces inégalités-là que tu pointes dans ton livre, puisque avec ce questionnement par rapport à la parentalité, ben, ton personnage va à la rencontre de plein de personnes qui vont raconter leurs histoires, du coup, sous le prisme de la parentalité, et comment, en fait, ça a exacerbé les discriminations, les différences, et ben, comment tu as... parce que c'est des vraies personnes.
Alors oui et non, tout à fait, oui, c'est des personnages de fiction, tous les personnages sont vraiment des personnages fictionnels, mais c'est que du réel dans le livre, c'est-à-dire c'est vraiment que des témoignages recueillis avec le temps, j'ai pas fait d'appel à témoignages, j'ai pas dit voilà j'écris un livre si vous voulez témoigner, enfin ça n'a pas du tout marché comme ça, mais c'est vraiment 30 ans et plus d'histoire et de ce que j'ai observé, de ce qu'on m'a confié, des histoires de parentalité, des histoires de maternité, des histoires de retour au travail, des histoires de tout ça. Donc vraiment, il n'y a pas une seule page qui n'est pas directement inspirée du réel. Et oui, en fait, l'idée, c'est vraiment l'histoire, c'est ça, c'est Maëdusa se rend chez la gorgonologue pour essayer de faire un petit peu la différence entre les injonctions à la maternité et son véritable désir d'enfant. Elle voudrait avancer là-dessus. Et puis défile dans le cabinet de la gorgonologue des gorgones et des gorgons qui ont donc des situations différentes face à la parentalité ou à la non-parentalité. Et donc oui, il y avait vraiment cette idée de diversité et de montrer plein de situations différentes.
Ouais, puis tu les abordes, vraiment c'est hyper complet puisque on a donc un couple de femmes. Tu abordes aussi la question du handicap physique, visible et invisible aussi, il me semble. La question de l'IVG est abordée, la question du racisme, du sexisme, enfin toutes ces questions qui sont hyper importantes sont abordées sous le prisme de la parentalité avec ces discours qui sont... Enfin, en fait, tu sens le vécu, tu sens vraiment que c'est quelque chose qui existe, et je trouve ça hyper intéressant en tant que non concernée sur certains sujets, d'avoir accès à ces discours-là qui te permettent de comprendre justement ce que d'autres personnes vivent, malgré un prisme qui peut être commun, qui va être la parentalité, quelles sont les différences chez certaines personnes, parce qu'en fait, il y a autant de parents que de personnes qui existent. Et je trouve ça hyper chouette et hyper intéressant, justement, de le mettre en avant comme ça. C'est très chouette.
Je te remercie. C'est vrai qu'en fait, quand on part de l'injonction à la maternité, notamment quand on est une femme, elle est réelle. Moi, je l'ai vécue de plein fouet. Je la vis encore aujourd'hui, même si j'ai beaucoup plus d'outils pour que ça m'atteigne moins. Mais en fait, finalement, on se rend compte que cette injonction, par exemple, à avoir des enfants pour réussir sa vie en tant que femme, parce que c'est vraiment ça qu'on nous met sur le dos, c'est un destin féminin est incomplet s'il n'y a pas la maternité, c'est ça qu'on essaye de nous faire croire. Bon, très bien, c'est déjà suffisamment pénible de faire sa vie avec ça sur les épaules. Mais en fait, finalement, c'est pondéré avec plein d'autres choses, c'est-à-dire... Par contre, si vous êtes une personne handicapée, est-ce que c'est judicieux de devenir parent ? Donc voilà, donc toi, tu n'as même pas le droit à cette injonction-là, en fait. Si tu es porteuse d'un handicap, notamment d'un handicap qui est jugé lourd par la société, si tu es une femme noire et si tu as notamment déjà des enfants, faudrait voir à pas trop en faire, parce que faire beaucoup d'enfants quand on n'est pas blanc, il y a quand même beaucoup de soupçons de vouloir faire ça pour les allocs, de je ne sais pas quoi, de ne pas gérer sa fertilité, enfin voilà. Donc on n'est pas à pied du tout d'égalité quand on est une femme blanche et quand on est une femme noire et qu'on a déjà des enfants et qu'on se pose la question d'en faire encore un troisième ou quoi que ce soit. Quand on est une femme grosse, le moins qu'on puisse dire, c'est que la sphère médicale dans son ensemble n'est pas toujours bienveillante. Et notamment, les femmes grosses entendent souvent qu'elles n'ont pas le droit à la grossesse. Il faudrait d'abord perdre du poids. En fait, il faudrait d'abord se conformer. Et se conformer, c'est quelque chose d'hyper oppressif, parce que la maternité, c'est pour les femmes, mais c'est pour les femmes blanches, minces, valides.
Entre hétéro. 25 et 35 ans.
Oh, voilà, qui ont le bon âge,
pas trop
jeunes.
Pas trop tôt, pas trop tard.
Exactement, pas trop jeune parce que ta vie est foutue, puis ça fait mauvais genre. Pas trop vieille parce qu'attention, grossesse gériatrique, alors que quoi. Donc vraiment, il y a énormément d'injonctions. C'est-à-dire que non seulement il faut faire des enfants, mais il faut les faire dans le bon cadre, avec le bon partenaire et dans la bonne situation. Et si toi-même, tu es une personne conforme. C'est hyper violent. En fait, quand on creuse un petit peu ça et quand on commence à détricoter, c'est hyper, hyper violent. Et c'est des inégalités de tous les côtés. Et finalement, on se rend compte que même quand on subit une, voire plusieurs injonctions, eh bien, souvent, on est mieux loti que d'autres personnes qui en ont encore plus sur le dos. Et donc oui, c'est sûr que ça fait beaucoup s'intéresser à autrui et aux personnes qui sont discriminées de manière différente.
Carrément. Tout à l'heure, tu parlais du rapport justement à l'âge et à la maternité. Tu as commencé à te questionner sur ces sujets à 35 ans, puisque ta mère t'avait eu à 35 ans. Et ça, enfin, vraiment, le transgénérationnel, il a quand même, sur la maternité, il est quand même hyper fort. Donc, tu parlais des femmes de ta famille, enfin, des personnes de ta famille qui t'avaient fait comprendre, finalement, toute ta vie, que 35 ans, c'était un peu tard. Est-ce que les injonctions viennent aussi de l'extérieur ?
Oui, tout à fait, complètement. Finalement, moi, ma famille, elle est assez bienveillante, c'est-à-dire que malgré ce sous-texte en continu, moi, j'ai des parents qui sont très peu intrusifs de manière générale sur ma vie, donc c'est pas le genre à me dire le dimanche « Ah, quand même !» Voilà, bon.
Quand est-ce que tu nous fais un petit fils ?
Exactement, quand est-ce que tu nous fais un petit fils ? J'aimerais bien devenir grand-mère, bon, tout ça, voilà. Ma mère a dit ça une fois, il y a très longtemps, justement parce que toutes mes tantes commençaient à devenir grand-mère et qu'elle dit « Ah, moi aussi, j'aimerais bien. » Et puis, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'elle a redit et je pense que ça a été aussi très pondéré en voyant que parfois les dites grand-mères ont été très, très sollicitées et qu'elle se dit « Oui, bon, finalement. »
On est bien.
La retraite. Voilà, tranquille. C'est cool.
Mais voilà, donc moi, c'est vrai que ma famille, finalement, est relativement peu intrusive de manière directe, consciente en tout cas. Par contre, oui, notamment dans cette année où j'ai eu 35 ans, j'ai aussi eu des petits pépins de santé dans la sphère gynéco qui ont fait que j'ai consulté plus de médecins que d'habitude. Et peut-être parce que c'était aussi lié à la gynécologie, je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque fois que je rencontrais un nouveau praticien qui ne savait rien de moi, vraiment, j'arrivais, il n'y avait pas de dossier lu au préalable et tout, on faisait vraiment connaissance. Et donc, date de naissance, paf, ok, vous avez des enfants, non. Et là, immédiatement, sans savoir quoi ou qu'est-ce, vraiment immédiatement, la fameuse phrase « il va falloir s'y mettre, rapidement ». Mais en fait, c'était d'une violence incroyable, parce que moi, j'étais justement dans cette tourmente sentimentale où je ne parvenais pas à faire couple de manière durable, stable, etc. Mais ça aurait pu être encore pire. pire, entre guillemets. Ça aurait pu être, je sais pas, j'aurais pu aligner les fausses couches, j'aurais pu être stérile, il n'en savait rien, j'aurais pu avoir eu des traumas très forts par rapport à la naissance, par rapport à tout ça. Je pouvais être dans, je sais pas, dans un état de précarité ou de pauvreté qui m'exclut, en fait, de l'idée de me projeter dans une parentalité et en souffrir. Je pourrais être en couple avec une femme. Enfin, il y a vraiment mais plein de situations qui font que peut-être sa question était hyper violente. Et il s'est pas posé la question, alors que c'est son travail. Il envoie défiler dans son cabinet ce médecin des personnes, et notamment des femmes qui sont dans des situations diverses et variées. Et non, et ben voilà, c'était froid, c'était un coup près. Il faudrait peut-être songer à vous y mettre, comme si ça ne m'était jamais passé par l'esprit. Quoi.
Puis donc, en fait, il ne questionne pas. Enfin, juste, il fait une injonction, il ne te questionne pas, il te demande ta date de naissance, si tu as des enfants, et bim, couperait, sans apprendre à te connaître et sans te questionner, alors que peut-être que le rôle du médecin, c'est d'abord de questionner.
Exactement. On aurait pu déjà commencer par est-ce que vous en voulez, parce que si ça se trouve, en effet, j'étais une personne child free qui dit bah non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Et donc, il n'y a pas de sujet. et donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'il n'y avait pas de dialogue, pas d'écoute, pas d'empathie. C'était juste rentrer dans le moule, quoi. Je ne comprends pas pourquoi vous y dérogez. Et je vous rappelle que la norme, c'est ça. C'est, au bout d'un moment, de faire des enfants. Et là, ben, votre horloge biologique, elle commence à tiquer un petit peu trop fort. Donc, il y a eu ça. Bon, à part ça, comme je tiens à le préciser, c'était un très bon médecin et il n'y a pas eu d'autres soucis, mais c'est vrai que sur le coup... Et d'ailleurs, je me suis énervée. Je lui ai dit « Ah, ben, vous avez quelqu'un à me présenter, docteur ? Parce que moi, je galère, figurez-vous, pour trouver le futur père de mes enfants. » Et donc, ça l'a un petit peu douché. Il s'est dit « Ok. » ça, c'est mon côté gorgone.
Ben non, mais tu fais bien, parce qu'en fait, je pense que ça lui... Parce que... Je pense pas que ce soit toujours... C'est jamais intentionnel, en fait. Je pense qu'ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Parce qu'ils ont, ils sont tellement pas confrontés à cette question en interne qu'ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire.
Exactement. Et puis sinon, ben, en effet, même si c'était vraiment comme de parler de la pluie et du beau temps, mais j'ai souvent entendu dans cette fameuse année de 35 ans, Léa, et toi alors, toujours pas d'amoureux et les enfants, ça t'intéresse pas de la part de personnes qui ne me connaissaient pas, enfin voilà, des collègues de travail avec, qui ne connaissaient pas ma vie. Et donc ça c'est pareil, hein, sans aucune mauvaise intention, vraiment pour papoter, pour discuter, mais c'est vrai que quand on est dans une situation de fragilité par rapport à ça, on se les prend en pleine tête et c'est pas facile. Ça s'explique par pas mal de choses. En fait, jusqu'à mes 33 ans, moi, j'ai vécu au Japon. J'ai passé 8 ans de ma vie au Japon. Et c'est vrai que j'évoluais dans une sphère où c'était pas vraiment un sujet de discussion qui revenait très souvent. Parce que j'étais avec soit des backpackers, des gens qui visitaient le monde, qui travaillaient 3 mois dans un pays, 3 mois dans un autre. Enfin, voilà, qui
pour qui l'installation famille classique, couple, mariage, achat de maison, labrador et enfant. N'était pas...
Pas d'actualité, en
non.
tout cas. soit, au contraire, des personnes très carriéristes, des expats, comme on dit, tu sais. Donc voilà, qui parlaient énormément de leur boulot, énormément de leurs finances, mais très, très peu, finalement, de la famille. Enfin, c'était pas un sujet qui venait naturellement. Donc, en fait, pendant toute cette période-là, j'ai été très épargnée par l'injonction à la maternité. J'étais celle qui vivait au Japon, qui faisait un truc un peu étrange. Et puis finalement, ben, je suis revenue en France et dans une ville de taille moyenne, La Rochelle, pour ne pas la citer, où là, les personnes de mon âge, les mid-trentenaires, souvent, ils étaient casés. Et, tout ce que tu viens de dire, le package avec le Labrador, ils l'avaient souvent depuis plusieurs années. Et donc, j'étais très en décalage. Je me suis retrouvée d'un seul coup très en décalage avec les gens de mon âge. Et donc, oui, j'ai souvent eu cette remarque faite, mais vraiment, encore une fois, de la part de personnes sans aucune malveillance, mais pour qui c'était une façon de faire la conversation, d'engager avec moi une conversation légère. Sauf que ça n'a rien d'une conversation légère, en tout cas, quand on a une fragilité par rapport à ça, quand on est en plein questionnement, c'est pas du tout léger et on a l'impression d'être cerné.
Il y a aussi cette question de la copine célibataire qu'on veut absolument caser avec le copain célibataire du copain, du copain, du copain. Enfin, comme si, en fait, quand tu es la dernière ou la seule célibataire dans un groupe d'amis, mais tout le monde essaye de te caser et tout le monde essaye de solutionner un problème quand peut-être qu'en fait, c'en est pas un. aussi. Pourquoi on devrait forcément être en couple déjà ? Déjà, juste cette question-là, on peut aussi être des personnes, on est avant tout des personnes seules. Le couple ne nous définit pas, le couple n'est pas une fin en soi. Alors certes, quand on a des désirs de famille et qu'on est hétérosexuel, c'est plus facile de le faire en couple, mais il y a plein de solutions aussi qui existent. Et le couple n'est pas une fin en soi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que on pose cette question aux petites filles depuis la nuit des temps, depuis qu'elles sont toutes petites, en fait. Est-ce que tu as un amoureux dans la cour de récréation ? Est-ce que, comment ça se passe ? Et c'est pas une amoureuse, hein, c'est un amoureux. Oui. Est-ce que tu as un amoureux ? Mais très petit, même dès la crèche. Enfin, est-ce que tu as un petit amoureux ? Je dis ça parce que j'ai une petite fille et que c'est arrivé, cette situation-là. Qu'on te dise, est-ce que tu as un amoureux à la crèche, à l'école maternelle, à l'école primaire ? Et puis petit à petit, en fait, on est un peu conditionné à ce que ce soit presque un but, finalement. Est-ce que tu ressens ça, toi, ou est-ce que tu as senti cette injonction-là aussi ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, et même, je crois, pour le coup, encore plus fort et sur une période bien plus précoce que l'injonction à la maternité. Vraiment, dès le début de ma vingtaine, il y avait cette idée de... Il faut être validé par le couple, quoi. Enfin, si... à moins d'avoir vraiment une posture très radicale là-dessus, c'est-à-dire je suis célibataire, c'est très bien comme ça, moi ça ne m'intéresse pas. Enfin, à moins vraiment de le clamer, mais sinon, si on n'est pas en couple avec un homme, quelque part, il y a un problème, quoi. On a un souci, on doit avoir un souci, forcément. Ouais. On a forcément un truc qui nous manque, on n'est pas une femme complète. Enfin, moi, ça, je l'ai ressenti très fort et très tôt.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Et donc, il y a eu des périodes où j'ai été en couple, donc évidemment, ça ne se posait plus comme question. Et puis, pour plein de raisons, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et je suis partie à chaque fois dans ma vingtaine. C'est toujours moi qui ai mis un point final aux relations, parce que c'était pas du tout satisfaisant, et voilà. Et puis, évidemment, plus tu avances en âge, plus ça devient compliqué, parce que oui, la société te clame très régulièrement que autant les hommes ont accès à des femmes plus jeunes, que ça se fait, que c'est normalisé, l'inverse est beaucoup moins vrai, ça existe bien entendu, et actuellement je suis en couple avec un homme beaucoup plus jeune que moi, mais en fait c'est quand même beaucoup moins courant, et c'est pas vraiment une perspective qu'on a quand on est une femme hétéro, quoi.
Ouais, carrément. Et puis
en tout cas pas pour construire.
Ouais, carrément. Et dans ton cheminement féministe aussi, est-ce que tu es plus exigeante avec un homme en couple ?
Mais même avant... c'est difficile de dire à partir de quand je suis devenue féministe, parce qu'il n'y a pas vraiment... On passe pas un brevet, hein, on n'est pas... Donc en effet, c'est une construction, voilà, c'est ça, on ne dit pas « ça y est, j'ai mon diplôme de féministe !» Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'étais pas du tout dans la pensée féministe, dans la documentation féministe, je n'avais pas les mots, je ne mettais pas les mots de sexisme, je ne mettais pas les mots de féminisme sur mon vécu, jusqu'à justement que je commence ma EDUSA. J'ai eu une maman plutôt féministe de son temps qui nous a toujours dressé un portrait plutôt positif des combats féministes, et ça je la remercie, parce que je suis pas partie avec des a priori négatifs comme beaucoup de gens sur les féministes casse-couilles, hein. Voilà. Donc ça c'est bien, mais moi je me suis pas consacrée à ça pendant la première partie de ma vie. Moi mon rêve c'était d'aller vivre au Japon. J'ai beaucoup investi en temps et en énergie pour ça, j'ai appris le japonais, il a fallu me démener bien entendu pour avoir un revenu là-bas, parce que je ne fais pas du tout partie d'une famille qui pouvait assurer mes arrières financièrement, bien entendu il fallait travailler tout de suite, gagner sa vie tout de suite. Donc ça a été pour moi l'œuvre de ma vingtaine, c'était ça, c'était d'avoir mon diplôme en poche, et puis de me débrouiller pour parvenir à faire mon chemin dans ce pays fascinant, mais lointain et cher, qu'est le Japon. Donc je me suis concentrée là-dessus. Et finalement, c'est vraiment à mon retour en France aussi, je pense que le fait de baigner de nouveau dans ma langue maternelle, c'est pas la même chose aussi. Le cerveau n'est pas mobilisé par les mêmes choses.
Et tu penses différemment, je trouve ça. Ouais. Pour avoir vécu l'expérience, moi c'était au Canada, en anglais, mais tu penses pas du tout de la même façon. tu n'as pas les mêmes perspectives. C'est assez dingue. Hein.
Oui, c'est en effet dingue. Et donc, bah oui, je suis revenue en France. Le fait d'être, de parler en français, de penser en français, comme tu le disais, ça m'a fait réfléchir différemment. J'avoue qu'aussi, les strates, comme dit Pénélope Bagieu, mais les strates d'expérience négatives, les strates des moments où on m'a pas respectée, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans les relations amoureuses, ça commençait à faire un sacré millefeuille, si tu veux. Et il y a un moment où vraiment la colère montait de manière sourde, parce que je suis pas quelqu'un qui convoque sa colère facilement, ça c'est dans les mots de ma psy. Donc voilà, c'était intérieurement, ça commençait à faire beaucoup d'expériences qui finalement portent un nom. Hein. Ce sont des violences sexistes, ce sont des violences sexuelles, enfin voilà, tout ça s'est bien accumulé. Et finalement, c'est au moment où j'ai créé ce personnage de Gorgone, parce que j'avais besoin de cet avatar de figure en révolte, en colère pour porter ma voix, que d'un seul coup, ça m'a paru évident que cette expérience, que ces expériences que je savais tellement communes avec le reste de la gent féminine, c'était une voix féministe. Et c'est là, en fait, que je me suis mis à lire les écrits des autres, à faire mon éducation, à écouter les podcasts de Victoire Toyon, à lire Mona Chollet, et puis à m'ouvrir à tous les autres féministes, féminisme et féministes, notamment les intersectionnelles, qui apportent encore quelque chose. Enfin, voilà, tout ça, ça a été fait depuis 2 ans et demi, depuis la création de Maëdusa. Avant, je ne mettais pas les mots politiques sur les choses. Donc voilà, donc je ne sais plus exactement quelle était ta question, c'était ça,
dans le couple, justement, cette dimension politique dans le couple, est-ce que ça te rend plus... est-ce que ça rend une relation plus compliquée, est-ce que tu es plus exigeante?
Je pense que j'ai toujours été assez exigeante sur la qualité de mes relations, et c'est pour ça que, comme je te disais, dans mon historique amoureux, c'est souvent moi qui ai mis fin aux relations et qui ai dit « bon, je ne vais pas continuer ». En fait, il s'avère que je suis quelqu'un d'assez indépendant. C'est pas forcément le cas de tout le monde et je le respecte entièrement. Il y a des personnes qui ont besoin de présence humaine, qui ont besoin d'interagir au quotidien avec un partenaire à deux. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Je suis très dans ma bulle. J'ai jamais eu de problème pour voyager toute seule, pour aller au resto toute seule, pour aller au ciné toute seule. Ça m'a jamais posé de problème majeur. Et donc, comme encore une fois l'a dit ma psy, j'ai besoin d'intensité dans mes relations et je préfère être célibataire. J'ai toujours préféré me mettre dans une position de célibat plutôt que d'être dans une relation assez tiède, avec un manque d'intensité, avec un manque de sens pour moi. Le côté tendresse et habitude du couple, c'est pas quelque chose qui prédomine pour moi dans les relations. Donc j'estime que j'ai toujours été finalement assez exigeante, assez vite irritée par l'inégalité face à la charge domestique, assez vite irritée par le fait que, bah, notamment quand j'étais au Japon, donc en couple avec un Japonais, c'était quelqu'un qui a été très happé par son milieu professionnel. Je savais que c'était le risque numéro un qui pesait sur notre relation. C'était un peu la différence culturelle de l'équilibre tant privé, tant professionnel. Mais comme c'était quelqu'un qui avait un parcours très international et que dès le départ, moi, j'avais posé les bases de mes craintes par rapport à notre relation et notamment sur le fait qu'il soit très peu disponible temporellement, mais enfin émotionnellement, tout ça, enfin qu'il soit très peu présent à cause des exigences qui reposent vraiment sur les hommes au Japon dans la sphère professionnelle. Mais au départ, on était parti sur justement des bases plutôt saines, c'est-à-dire que lui-même n'avait pas du tout envie de se sacrifier corps et âme pour son travail. Il revenait tout juste au Japon, mais il avait passé de longues années en Angleterre, puis aux États-Unis, et il n'avait pas envie d'un couple classique, traditionnel, japonais, où finalement on cohabite, mais on se voit assez peu. C'était pas du tout son... Donc bref, j'étais partie un petit peu, si tu veux, dans l'idée que ça pouvait fonctionner, qu'on avait un terrain d'entente, et puis finalement, avec le temps, ça n'a pas tenu. C'est-à-dire que vraiment, il a été happé par tout ce qu'on demandait de lui, et que je me suis donc retrouvée... femme de marin, comme dit ma mère, c'est-à-dire à attendre au port le retour de l'être aimé et à être, enfin, ne pas du tout être une priorité, que notre couple ne soit pas une priorité, que nos échanges ne soient pas du tout une priorité. Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles, encore une fois, j'ai mis un point final à ces relations. Donc les exigences, je pense que je les ai toujours eues, même si je ne les formulais pas de manière aussi claire et aussi politisée. Et donc voilà, ça m'a suivi au début de la trentaine, ça m'a suivi jusque là. Maintenant, je suis beaucoup plus révoltée par rapport aux situations des autres. C'est peut-être ça, mon éveil féministe, c'est vraiment de voir tous les points communs entre mon histoire et celle de nous toutes, et de m'ouvrir aux difficultés supplémentaires qu'ont les personnes qui sont encore une fois discriminées par des oppressions qui moi ne me touche pas. Voilà, mon éveil politique, c'est plus d'être exigeante à titre social, en fait, c'est-à-dire d'avoir aussi une vision de tous les manquements de la société dans son ensemble, des pouvoirs publics, le manque de crèches, tu vois, cette vision un petit peu générale, cette vision vraiment politique de ce qui nous manque en tant que société pour vraiment créer un terrain propice à l'égalité de genre et le déni qu'il y a par rapport à ça et même le refus de s'engager par rapport à ça, le côté c'est très bien comme ça, enfin voilà, c'est tout ça maintenant qui me révolte et contre lequel je prends la parole.
Il y a des petits trucs là comme ça qui me viennent en question. Tu as une expérience internationale et tu as écrit un livre sur les injonctions à la maternité, à la parentalité. Est-ce que tu dirais que ton livre répond vraiment à des injonctions françaises, européennes, ou alors elles sont universelles, ces injonctions-là?
Je dirais un peu des deux. Je pense qu'il y en a certaines qu'on peut retrouver dans beaucoup de cultures et dans beaucoup de formes de société. Et puis il y en a d'autres, en effet, qui sont peut-être assez franco-françaises. Quand j'étais au Japon, j'étais dans une situation un petit peu particulière parce que, alors, je vivais au Japon, mais je travaillais pour une organisation malienne. Donc, mes collègues, c'était moitié des Maliens et des Maliennes et moitié des Japonaises. Donc, c'est sûr qu'il y avait, vraiment beaucoup de choses différentes à tous les étages entre ces deux cultures et puis la mienne. J'étais la seule française, donc j'arrivais avec encore quelque chose de différent. On retrouvait des choses communes, mais vécues de manière un petit peu différente. Par exemple, c'est vrai que mes collègues maliennes, me voyant approcher de la trentaine, étaient assez catastrophées par le fait que j'étais pas mariée. Ils me disaient, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la question? Si vraiment tu veux pas te marier, t'as le droit de nous le dire, mais c'est vrai qu'on trouve un petit peu bizarre que tu sois, que t'es toujours pas la bague au doigt. Et elle s'inquiétait vraiment. Et en effet, comme tu le disais tout à l'heure, elle me disait on a quelqu'un à te présenter. Enfin, voilà, elle voulait un petit peu rétablir la situation. Et de l'autre côté, les Japonaises que je rencontrais, notamment dans un contexte un peu, tu sais, de mondain, un peu networking, etc. Pareil, avait tendance à se demander pourquoi à l'approche de la trentaine, j'étais toujours célibataire. Et elle, c'était plutôt, si tu es toujours célibataire, sachant qu'en plus, t'as fait des études, t'as une carrière internationale, on peut dire ça comme ça. Pas vraiment, en fait, mais bon, bref, je donnais cette image. Eh bien, c'est que tu dois être très exigeante. En fait, elle se disait, et notamment en termes financiers, je devais attendre un super bon parti. C'était leur vision des choses. Et donc, souvent, je me suis retrouvée dans cette situation super gênante pour une Française, pour le coup, c'est vraiment le gap culturel, où une Japonaise que je connaissais à peine, avec qui vraiment je commençais à discuter, me disait, mais alors du coup, tu vises combien par an? Ça devrait être quoi le revenu d'un candidat potentiel pour toi pour le mariage?
Qu'on peut poser en France sur un nouvel emploi.
Exactement, combien de cas euros en fait? Et là c'était un peu pareil, combien de millions d'yens, parce que ça se compte comme ça, et donc c'était un petit peu délicat de dire alors non, je vois pas tout à fait les relations comme ça. Oui, c'est sûr que pour construire, évidemment, on va pas faire comme si l'argent n'avait aucune importance, ce serait faux, mais quand même de chercher un partenaire par ce prisme là ça me convient pas trop. C'est pas vraiment l'optique. Et donc oui, c'était fascinant de voir que en fait on symbolisait à nous trois, les trois sphères, trois types d'injonctions à faire couple, avant même l'injonction à la maternité, mais d'injonctions à faire couple. Les maliennes en mode c'est quand même curieux que tu sois pas mariée de base, quoi, en fait. Que se passe-t-il ? Les japonaises en me disant si tu n'es pas mariée, c'est que tu dois être très exigeante sur le statut et le revenu de ton futur conjoint, donc comment tu vas t'en sortir ? et moi, avec peut-être une version un petit peu plus romantique, peut-être un petit peu plus sentimentale, je ne tombe pas facilement amoureuse, et quand je tombe amoureuse, j'aimerais bien que ce soit d'un compagnon qui s'investisse, quoi. Voilà.
Donc ce n'est pas un mythe, les Françaises sont romantiques.
Bah écoute, moi en tout cas je le suis assez, et en même temps très pragmatique, hein. C'est pareil,
oui, non, mais ça
hein,
n'empêche pas.
On parlait tout à l'heure de la charge domestique et tout. Oui, bien sûr. Mais oui, j'ai un côté très romanesque, j'ai un côté passionné, j'ai un côté intense, j'ai besoin de ça, un peu idéaliste même carrément. Et donc il faut que ça soit nourri. Donc bien sûr, évidemment, il y a beaucoup de compromis à faire avec le quotidien, avec le côté terre-à-terre d'une relation, mais c'est important pour moi en tout cas.
Ouais. C'est incroyable, enfin c'est incroyable, non c'est pas incroyable du tout, mais c'est fou comme en fait, quel que soit... Parce que là, pour le coup, enfin, c'est vraiment aux antipodes les cultures que tu as présentées. À quel point, en fait, si une femme n'est pas accompagnée d'un homme, si elle n'est pas validée par un homme en tant que couple, en tant qu'épouse, elle n'est presque rien, en fait. En tout cas, sa valeur est déterminée par le fait qu'elle soit en couple, mariée, avant 30 ans de préférence, parfois plus tôt, parfois, enfin, 30 ans, c'est la norme. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, on questionne et on se demande s'il n'y a pas un problème quand les hommes, en fait, ne sont pas questionnés sur ce sujet-là.
Oui, absolument.
C'est
oui, non, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est vrai que, bon, moi, par exemple, j'ai toujours écrit, j'ai toujours dessiné, même si c'est longtemps resté dans mes tiroirs, mais ça fait vraiment partie de quelque chose que... Enfin, on pouvait pas me connaître sans le savoir. C'est-à-dire que j'ai toujours fait, je sais pas, des portraits pour mes amis, pour les anniversaires. J'ai toujours publié sur mon petit Facebook perso des dessins, des choses. Donc, enfin, normalement, on pouvait pas prétendre me connaître un tant soit peu sans savoir que j'avais ce côté créatif, disons. Voilà. On m'a posé dans ma vie extrêmement peu de questions par rapport à ça, extrêmement peu de conversations ont été menées par rapport à ce pan pourtant très important et fondamental de ma vie. Maintenant, j'en vis même carrément, donc enfin voilà. Et par contre, je ne compte plus le nombre de fois où on m'a interrogée sur... l'amour de manière générale, sur le couple, sur ma situation conjugale, sur mes aspirations par rapport à ça. Donc oui, je pense qu'en tant que femme, on est très souvent perçue dans un prisme, alors soit sexuel carrément, hein, hyper sexualisant et tout, mais pour le moins romantique en tout ça. En tout cas, c'est notre place, c'est notre vocation dans cette société d'être des partenaires, n'est-ce pas ? Enfin, on hérite en fait encore beaucoup de ça. Même si, bien entendu, tout le monde est au courant que nos vies ne se résument pas à ça et qu'on accomplit bien d'autres choses, et que même quand on n'accomplit rien de marquant d'ailleurs, eh bien, malgré tout, le couple et ou la maternité n'est pas forcément central, et qu'il y a d'autres choses dans nos existences. Bien sûr, tout le monde le sait, mais on le sait encore avec la partie supérieure de l'iceberg, et en fait la partie inférieure, elle est très pétrie de la place qu'on attend, que tout le monde attend qu'on prenne.
Ouais, carrément. Tu me permets une excellente transition qui était ma question suivante autour de Maëdusa. Quand tu as lancé Maëdusa sur Instagram, pour toi c'était important de garder un anonymat?
Oui, alors très bonne question. J'ai pas essayé de protéger un anonymat total. Par exemple, il y avait un lien vers mon site internet, et sur ma page web, eh bien il y a d'autres écrits que j'ai auto-publiés bien avant de publier les BD actuels, où il y avait donc mon nom, mon prénom. Donc c'était assez facile en fait de retrouver ma trace. J'ai pas essayé de faire un écran total. Par contre, c'est vrai que oui, j'ai créé cet avatar de Gorgone, et j'ai mis très peu de photos de moi ou de vidéos de moi en réel, pour plusieurs raisons. Déjà, la numéro une, c'est que quand on prend la parole sur le féminisme sur les réseaux, on est quand même très exposé aux raids de masculinistes, au harcèlement en ligne. Et les cyberharceleurs, clairement, ils sont très excités par la photo ou la vidéo des femmes qui prennent la parole, quel que soit le sujet d'ailleurs. Alors bien sûr, c'est encore pire quand c'est le féminisme, le racisme ou autre chose, mais même quand on prend juste la parole de manière beaucoup moins politique que ça, le fait de se montrer va susciter chez eux le besoin de nous remettre à notre place, et donc très souvent on va avoir des commentaires sur notre physique, on va se prendre beaucoup de violences verbales, beaucoup, voilà. Et c'est vrai que parler derrière une bande dessinée, ça désamorce beaucoup de ça, ça les excite beaucoup moins, il faut bien le reconnaître, et en plus de ça, pour comprendre ce que dit Maïdusa, il faut lire quand même. Donc il n'y a pas vraiment ce réflexe de « tiens, celle-là, elle prend la parole, et elle n'est pas dans une optique de me plaire, elle n'est pas dans une optique de séduction, elle n'est pas dans une optique de se normer à la minceur, à la jeunesse, à la joliesse et tout, il va falloir que je lui rappelle que sa place, c'est ça ». Il n'y a pas ce détonateur, tu vois. Donc c'est vrai que c'était une façon, notamment dans les débuts de Maïdusa, de me protéger. Et puis la deuxième raison, c'est que j'avais envie qu'un maximum de personnes puissent se projeter dans mon personnage, et c'est plus facile quand c'est un personnage de bande dessinée que quand c'est moi avec ma tête, enfin voilà. Oui, c'était une sorte d'anonymat.
Ok, ouais. C'est intéressant cette distance entre le personnage Maïdusa et toi, ouais. Notamment face aux critiques, parce que j'imagine bien en fait à quel point du coup tu dois pas, enfin ça fait comme un filtre, un bouclier, et c'est peut-être plus facile de se détacher et de pas prendre personnellement des choses qui sont dites, et vraiment on va questionner ton travail, on va parler de ton travail, de ce qui est dit, et t'as raison, il faut lire, donc ça veut dire que ces personnes qui habituellement vont pas prendre le temps d'écouter ce que la femme à dire, vont même pas regarder, parce qu'en fait, sinon, ils vont avoir une graine qui va être semée, et ça serait très problématique. Faudrait quand même pas semer trop de graines. Hein. Et donc, en tant que bien-être, en fait, aussi, psy, tout simplement, ça doit être vraiment intéressant, cette distance que tu mets entre ton travail sur Maïdusa et toi. Mais en même temps, parce que moi je te vois là, Maïdusa te ressemble.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment extrêmement bien fait. Ouais.
Merci. C'est vraiment mon avatar, quoi. C'est, ouais. Oui, c'est moi, Maïdusa. Ouais. Mais c'est une partie de moi. C'est un personnage, encore une fois. Donc c'est une gorgone, elle a des cheveux en serpent, elle peut se permettre plein de choses. Enfin voilà, mon personnage de Maïdusa, si j'ai envie de la faire voyager ou voler ou remonter le passé, c'est possible. Donc c'est génial, ça donne vraiment un terrain pour la créativité qui est super. Oui, donc c'est à la fois mon bouclier, et d'ailleurs c'est marrant parce que le bouclier c'est aussi un accessoire qui est très lié à l'histoire de Méduse. Et puis c'est le soldat, tu sais, que j'envoie au combat. J'ai une adelphe, donc ma sœur, mais c'est une personne non binaire qui est astrologue, et pour qui qui explique très bien que les planètes dans notre thème astral, ce sont un petit peu des personnages qu'on a en nous, et puis finalement qu'on peut les convoquer. Et donc le guerrier, Mars, tu vois, c'est un petit peu le guerrier qu'on envoie au front quand on a envie d'en découdre, quand on veut se défendre, ou quand on veut conquérir, ou quand on veut make a point. Et ben Maïdusa, c'est un petit peu mon Mars intérieur, quoi. C'est un petit peu la figure qui monte se battre. Donc oui, c'est psychologiquement, c'est un vrai travail. Encore une fois, quand je dis que c'est toujours ma thérapie, que l'art, c'est souvent une thérapie pour les artistes. Oui, bien sûr, ce personnage de Maïdusa, ça me permet d'extérioriser beaucoup de choses en étant un petit peu moins vulnérable que si je prenais la parole directement. Et en même temps, ça me permet de me dépasser moi-même, parce que je peux imaginer Maïdusa dans des situations que moi, je n'ai pas vécues à titre personnel. Et donc voilà, c'est beaucoup plus souple.
Ouais, carrément. Ouais. Pourquoi tu as choisi d'utiliser des personnages de la mythologie ? Pourquoi particulièrement ce moment ?
Alors écoute, ça c'est tout un cheminement. alors, ce personnage de Gorgone d'aujourd'hui, je l'avais en tête depuis quelques années, et notamment depuis un voyage en Grèce que j'ai fait toute seule. Ça a été un petit peu spécial, ce voyage en Grèce, parce que moi j'ai toujours été passionnée par la mythologie, comme beaucoup de gens. Par contre, c'est vrai que j'ai pas un côté très spirituel, tu vois, je fais pas beaucoup de rituels, je suis pas quelqu'un qui qui essayent d'avoir de la spiritualité au quotidien. Je le tolère beaucoup chez les autres, mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma to-do list de la journée. Mais ce voyage-là, je suis partie vraiment en disant « Ok, je vais à Athènes, c'est quand même la ville d'Athéna. J'ai un message pour elle. » Je lui ai écrit un poème. Je lui demandais en fait sa guidance, sa bienveillance, parce que justement, j'étais à l'approche des 35 ans. Je commençais à me poser beaucoup de questions et à me sentir pas bien en fait par rapport à tout ça, à la maternité, au couple et tout et tout. Et même professionnellement, ça n'allait pas non plus. Je n'avais même plus le mirage de vivre à l'étranger et qu'il y ait toujours des choses fabuleuses et intellectuellement stimulantes, tu vois. Vivre au Japon, c'était ça, c'était la stimulation intellectuelle et culturelle au quotidien. Là, j'étais de retour en France, donc je n'avais même plus ces lunettes roses, tu vois, pour voir l'existence. Donc, je commençais à entrer en dépression, ouais. Même si je ne mettais pas le mot dessus, mais c'était exactement ce qui était en train de se passer. Et donc, voilà, j'ai ressenti le besoin en me disant, bon, j'ai mes vacances, ça tombe en novembre parce que je ne les ai pas choisies. J'ai le temps, je peux aller jusqu'à la Grèce, au moins j'aurai un peu de soleil. Et puis voilà. Et donc, j'ai ressenti le besoin, en fait, de faire des prières finalement à Athéna, un truc qui vraiment ça me ressemble très peu, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup, non. Et bien donc j'ai fait ça et en fait dans ma tête il y avait vraiment cette idée de je connaissais l'histoire de Méduse, je connaissais l'image négative que Ovide a donnée à Athéna dans cette histoire, parce que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le mythe, Ovide nous dit, Méduse c'est une divinité primordiale, donc antérieure à la génération des Olympiens, Zeus et les autres, et puis quand les Olympiens prennent le pouvoir, Méduse devient prêtresse d'Athéna. Et puis un jour, Poséidon, le dieu de la mer, le frère de Zeus, viole Méduse dans le temple d'Athéna. Et Athéna, très offensée par ce qui s'est passé sous son propre toit, décide de punir Méduse, et non pas le violeur. Et donc elle change Méduse en monstre, en la coiffant de serpent et en lui donnant le fameux regard pétrifiant. Le regard qui est capable de changer en pierre. Sur ce, Méduse va se réfugier dans une grotte avec ses sœurs les Gorgones, et elle y vit tranquillement, jusqu'à ce que Persée, le héros des héros grecs, toque à sa porte, si on peut dire ça comme ça, et dans le but de la tuer, et finit par la décapiter. Et on applaudit Persée, fin de l'histoire, et tout va bien. Donc évidemment, c'est une histoire très choquante à bien des égards, parce que c'est une victime de violence sexuelle qui est doublement punie, parce que Athéna ne joue pas du tout la carte de la solidarité féminine ou de la sororité et vient en rajouter une couche par-dessus. Donc voilà, finalement, c'est une histoire qui nous interpelle à bien des endroits. Et en fait, là, en essayant d'appeler je ne sais pas quelle bénédiction sur ma tête face à la statue d'Athéna à Athènes, je me dis, mais je suis certaine qu'il y a une autre vérité, et en tout cas la mienne, c'est celle de la solidarité. Athéna n'a pas puni Méduse, elle lui a donné des armes pour se défendre, et donc d'un seul coup le mythe a été réécrit dans mon esprit. Et je me suis rendu compte que c'était une interprétation que d'autres personnes avaient, et que notamment dans le milieu féministe, la figure de Méduse était souvent représentée parce que image de femme en colère, parce que victime de violences sexuelles punie, mais que aussi il y avait cette troisième dimension. Et si finalement Athéna n'avait pas eu ce rôle négatif. Donc voilà, j'ai porté ça en moi pendant un ou deux ans, puis dès que j'ai eu le temps, finalement, ce temps accordé par le confinement. De commencer vraiment à mettre ça sur le papier, tout est devenu vraiment limpide, quoi. Donc voilà, c'est à la fois un goût pour la mythologie que j'ai eu dès mon adolescence, mais dont j'ai rien fait, et puis ce voyage en Grèce qui a été tellement curieux, tellement exceptionnel dans ma vie, et puis finalement ce personnage qui s'est imposé tout seul.
C'est intéressant ce que tu dis par rapport à ton voyage en Grèce, ça me fait penser à un livre qui a été écrit par, alors j'ai oublié son nom de famille, c'est Robert, mais c'est Philosophy the New Sexy, sur Instagram, et c'est un livre autour de Pénélope, et il y a ce cheminement d'aller en Grèce et de trouver des réponses et de tout ça, et du coup c'est marrant parce que c'est hyper similaire, j'ai mis mon téléphone dans mon avion, donc je ne peux pas chercher en même temps. Mais je vais le retrouver parce que je ne sais pas si tu l'as lu.
Non, je ne l'ai pas lu. Mais du coup, c'est marrant ce que tu me dis.
S'il est sur ma table de chevet, je ne l'ai pas fini. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment un livre. C'est Marie Robert. Et ça s'appelle Le Voyage de Pénélope. Voilà, c'est ça.
Très bien.
Le Voyage de Pénélope par Marie Robert. Et c'est vraiment... Ça raconte vraiment ce que tu as vécu, en fait. C'est ça qui est intéressant, avec ses réflexions autour de la mythologie, mais aussi des réflexions très personnelles, puisque Marie Robert est philosophe. Donc, il y a vraiment, vraiment ces dimensions-là. En tout cas, c'est très similaire. Donc, si tu ne l'as pas lu, je te le recommande chaudement.
Ça peut me le procurer.
Carrément, potentiellement t'intéresser. Aujourd'hui, et c'est une question qui m'était venue avant, tu as mis... ta photo sur Instagram pour des questions d'Instagram qui veut vérifier notre identité pour certifier un compte. Est-ce que tu dirais que ça a changé ta relation avec tes lecteurs et tes lectrices ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux choses qui sont arrivées simultanément. Comme tu l'as dit, on est dans une situation où le réseau nous conseille fortement de mettre une photo en profile picture, parce que pour des raisons en effet de si on perd notre compte, s'il y a un problème technique, etc., pour pouvoir vérifier notre identité. Bon. Donc, ça m'a obligée à abandonner le fameux avatar dessiné de Maïdusa et de mettre enfin ma tête bien visible sur la page. Et puis aussi, je suis entrée en phase de promo pour les deux BD et donc il faut un peu jouer le jeu. Les maisons d'édition nous demandent de faire des reels parce que c'est, paraît-il, ce qui fonctionne sur Instagram. Bon, moi, j'en ai jamais fait beaucoup, donc il a fallu parler face caméra et me montrer un peu. Donc oui, je pense que ça change un petit peu les choses puisque, encore une fois... il est moins évident pour mon lectorat de se projeter sur moi. Enfin, voilà, c'était plus simple de le faire sur Maïdusa, en tout cas. J'ai pas eu de retour négatif par rapport à ça, mais c'est quelque chose que je subodore. Et puis, sur les vidéos, notamment donc les vidéos de promo qui ont été diffusées non pas seulement sur mon compte, mais aussi sur le compte de mes éditeurs, il y a eu... quelques commentaires très virulents. Je n'en avais pas eu d'aussi virulents depuis un moment. Donc, je pense que ma théorie se confirme. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand on se montre en vidéo, quand on se montre en réel, il y a beaucoup plus de violence qui est dirigée contre nous. Alors, le problème, encore une fois, ce n'est pas nous. Je ne suis pas en train de dire on devrait toutes se planquer. Ce serait complètement contre-productif. Absolument pas. Le problème, c'est évidemment cette culture... sexiste et du cyberharcèlement qu'on se prend de plein fouet, quoi.
Ouais, carrément. Est-ce que tu envisages, après toutes ces périodes de promo, de revenir sur un avatar ?
Oui, complètement. Comme je te le disais, en plus, on ne sait pas si vraiment c'est tellement utile que ça pour la vérification d'identité. On pense, donc on fait, mais en fait, on ne sait pas. Donc, si je m'aperçois qu'au final, oui, je pense que je reviendrai vers un avatar dessiné. Ça me correspond davantage, et moi, j'ai envie qu'on suive les aventures de Maïdusa, celle que je suis derrière à titre perso. Ce n'est pas celle que je mets en avant sur ce compte, donc ce n'est pas la peine, en fait.
Oui, carrément. Ouais. Tu le disais en intro, aujourd'hui, tu as 38 ans.
Ouais.
Ton cheminement sur toutes les injonctions, sur ton rapport à la parentalité, à la maternité, a eu lieu quand tu avais 35 ans. T'en es où aujourd'hui sur ces questions-là ?
Alors, c'est génial parce qu'en fait, cette grande crise des 35 ans et puis ce grand bouleversement à 36, parce que, encore une fois, j'ai été contrainte par les événements, comme beaucoup de gens, de repenser un peu comment j'allais gagner ma vie. Et donc, je me suis lancée dans ce statut d'artiste-auteur... qui est encore à l'essai aujourd'hui, c'est-à-dire il faut que je vois si je suis capable d'en vivre, donc ça va prendre quelques années pour voir si je suis en effet capable d'en vivre. Mais en fait voilà, ce qui a changé pour moi ces trois dernières années, c'est tout le reste, c'est-à-dire que je me suis trouvée professionnellement. Maïdusa m'a vraiment permis, pour la première fois de ma vie, je fais un job qui n'est pas alimentaire, qui n'est pas une somme de contraintes imposées par tous les autres. C'est vraiment, je fais, personne ne peut faire Maïdusa comme moi. Je sais que ça a une utilité, j'ai des messages, j'ai les commentaires, j'ai tout cet écho incroyable que les gorgones me renvoient, donc les gorgones et les gorgons, mais mes lecteurs, mes lectrices me renvoient. Donc je sais ce que aujourd'hui que j'ai trouvé ma place professionnellement et même socialement parlant. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et oui, ça change tout. Et ça change la perspective sur tout le reste. Il y a quelques temps, j'échangeais avec Bettina Zourli du compte Je ne veux pas d'enfants. Et elle me disait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, comme beaucoup de monde, tu réalises que la maternité, qu'elle advienne ou qu'elle advienne pas, mais c'est pas forcément central dans ta vie. Et ça, c'est OK aussi. On peut avoir des enfants, ou ne pas en avoir, mais on peut avoir des enfants et se rendre compte que, malgré tout, évidemment, la mobilisation que ça nous demande en termes de temps, en termes d'énergie, etc., et ça, on ne peut pas y couper, à moins d'être ultra privilégié, on ne peut pas y couper, mais on peut aussi se rendre compte que ce n'est pas forcément l'élément central de son existence et que la, on, ben voilà, le ikigai, comme disent les Japonais, mais vraiment la raison de vivre, elle peut être ailleurs, même si on a des enfants. Et donc là, c'est un petit peu... Je me suis un petit peu remis sur ces rails-là, quoi. C'est-à-dire que trouver ma voie professionnellement et artistiquement m'ont fait beaucoup, beaucoup relativiser toutes ces idées d'injonction et à faire couple et à avoir des enfants. Et donc, en fait, j'étais partie sur l'idée que bah, je vais me concentrer là-dessus, quoi, et le reste, on verra bien si ça vient tout seul ou pas. Il s'avère que, grâce à Maedusa, j'ai fait la rencontre d'un homme exceptionnel avec qui je suis en couple aujourd'hui. Et donc, je suis comblée aussi sur le plan sentimental et amoureux. Ça se passe très, très bien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais été dans un tel équilibre, que ce soit émotionnel, sentimental, quotidien. Vraiment, c'est un super partenariat amoureux qu'on a mis en place. Donc ça c'est chouette. Donc évidemment j'ai une sérénité qui s'est mise en place là-dessus, parce que en vrai j'ai pas vraiment avancé de manière drastique sur le fait est-ce que je vais avoir des enfants ou pas, parce que le temps continue quand même à passer et c'est sûr qu'au bout d'un certain âge quand même la fertilité peut être plus compliquée ou pas, hein, ça dépend vraiment de des gens, mais ça peut devenir un sujet, la fertilité peut devenir un sujet de mon côté. Finalement, mon conjoint, on ne sait pas, mais la fertilité, ça peut aussi être un sujet de son côté à lui. Pour l'instant, on est dans une situation économique où, en effet, ce ne serait pas raisonnable d'avoir des enfants. On n'a pas la stabilité, on n'a pas les revenus. Donc, ce n'est pas un sujet brûlant. C'est pas, mon but, ce n'est pas, maintenant que j'ai trouvé l'amour, de faire un enfant là, dans les 2 ou 3 ans à venir, parce que voilà... Donc on n'est pas très très sûr, on va voir, ça peut arriver très vite dans quelques temps, si d'un seul coup je me dis bon moi ça y est je suis prête c'est maintenant et c'est parti, ou bien ça peut ne pas advenir. Et en fait on est tous les deux assez raccord là-dessus, c'est-à-dire que notre philosophie c'est vraiment si on devient parents ensemble ce sera une grande joie, il y aura des tas de contraintes mais ce sera une grande joie, mais si on n'est pas parents ensemble ce sera également une grande joie, on aura beaucoup plus d'insouciance, probablement beaucoup plus de liberté. Et donc, est-ce qu'il y aura une part de regret liée à ça? Probablement. Si on a des enfants, il y aura peut-être aussi une part de regret par rapport à la vie qu'on laisse derrière nous. On est assez raccord, ouais. Sur ce... C'est pas vraiment un fatalisme, mais sur le fait qu'on va pas tout contrôler et que tout dépend pas de nous et qu'on verra bien.
Ouais. Non, voilà. Mais carrément. Ce que j'entends, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que les femmes sont conditionnées à devenir mère un jour comme un but ultime en soi. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, ben, en fait, toi, tu as trouvé ta place. C'est que tu as trouvé ta place autrement. Ouais. Et en fait, peut-être que les femmes sont pas... On n'apprend pas aux femmes, en tout cas, on ne nous apprend pas à trouver notre place autrement que dans la maternité et que parfois, ça passe par là. Moi, je sais que dans mon cas, c'est passé par là. Même si ma place, même si le rôle de ma vie n'est pas d'être mère. Tu vois ce que tu expliquais justement, de pouvoir être mère, mais d'avoir autre chose derrière qui nous anime. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Par exemple, je suis mère, mais ma fille, que j'aime de tout mon cœur, ma maternité ne m'est pas ma raison de vivre. Elle a une place importante dans ma vie. C'est un rôle que je chéris, que j'aime beaucoup et qui m'apporte énormément, mais ce n'est pas central dans ma vie. Il y a d'autres choses, notamment les combats que je peux mener autour de Prenons un café, qui sont mine de rien quand même liés à cette parentalité, mais qui sont tournés vers l'extérieur, tu vois. Donc en fait, ce n'est pas incompatible, mais parfois, en fait, on n'a tellement pas appris à exister autrement que par ce couple dont on parlait précédemment et par cette parentalité, que c'est hyper difficile d'aller trouver autre chose. Et quand je t'entends parler, j'ai l'impression que ben, en fait, l'affirmation de soi, ton affirmation de toi, est passée par autre chose. Et cette place que tu cherchais, en fait, tu l'as trouvée autrement. Et je trouve ça hyper intéressant et important d'avoir ce genre de discours parce que ça montre que c'est pas parce qu'on est une femme que notre accomplissement passe par le couple et la maternité. Oui, ça fait partie de choses qui peuvent nous rendre heureux et qui peuvent nous permettre de nous épanouir, mais ce n'est pas un but en soi et ce n'est pas une fin en soi. Et c'est pas obligatoire pour trouver sa place et c'est pas obligatoire pour exister.
Et mais je plus sois tout ce que tu viens de dire. C'est extrêmement bien résumé.
Eh bien, écoute, on peut terminer là-dessus.
On peut terminer là-dessus.
Merci mille fois, Noémie.
Merci à toi,
pour cet
Alice.
Échange. J'ai adoré, c'était passionnant. Mais si on veut découvrir ton travail, par où ça se passe ?
Alors, ça se passe sur Instagram. Je ne suis pas présente sur les autres réseaux parce que Instagram me demande énormément de travail, de modération, etc. Donc, sur Instagram, la page, c'est Maedusa Gorgon. Je vous y attends avec plaisir. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver en librairie. Maternité, miracle et malédiction, c'est la bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Attier. Et L'œil de la Gorgone aux éditions Le Duc Graphique, la suite de près.
Qui sort, il n'est pas sorti encore celui-là.
Il n'est pas encore sorti, il est en précommande, vous pouvez déjà, d'ores et déjà le précommander.
Et t'as la date de sortie ? Parce que
oui,
peut-être
c'est
que quand.
31 octobre.
Eh bien, je pense que ça va concilier, enfin, ça va être coordonné avec la sortie.
Les deux sont en librairie.
Allez-y. Non, mais de toute façon, on peut se les procurer soit en précommande, si bien c'est sûr. Pas encore sorti, soit en librairie, dans votre librairie de quartier, toujours de préférence.
Bien sûr.
Mais si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de librairie, vous pouvez aussi les commander sur Internet. De toute façon, les livres, et ça, j'aime bien faire cette petite info parce que ce n'est pas très connu, mais les livres sont au même prix absolument partout
en
France. La loi du prix du livre l'impose, donc que vous le commandiez chez votre libraire ou sur Internet, c'est la même chose. Donc, on va privilégier les libraires qui en ont énormément besoin.
Tout à fait.
Merci mille fois, Noémie, c'était trop bien. Et puis, à bientôt.
Merci à toi, Elise. À très bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Claude Choco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. » C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Claude Choco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.